René Pujol, Le soleil noir. Dans les profondeurs du souterrain. Si la première heure fut exquise, il fallut bien nous avouer ensuite que notre changement de domicile avait été effectué à la légère. Dans la précipitation du départ, nous n'avions emporté aucun aliment. Nous manquions également d'allumettes. Et M. Sternebal ne possédait qu'un briquet à amadou qui ne pouvait nous être d'aucun secours. Assis côte à côte sur une longue pierre, nous n'osions plus nous éloigner davantage de l'issue, car les carrières du Mugron comportent plusieurs étages. Nous eussions pu dégringoler et nous rompre le cou. L'entrée de la galerie devenait de plus en plus sombre, car la nuit devait s'apesantir sur la terre. Nous n'avions pas trop chaud, mais nous avions faim et soif. L'angoisse nous étreignait. J'avais peine à chasser la pensée que nous étions ensevelis vivants. Une fade odeur de moisie nous incommodait, semblable à celle qui se répand lorsque les fossoyeurs soulève la dalle d'un tombeau. Et puis, nous étions anxieux de ne pas savoir ce qui se passait dehors. Nous voulions parler, la conversation étant, dans cette ombre, la manifestation la plus rassurante de la vie. Mais nous ne trouvions rien à nous dire. Jeanne, qui se pressait contre moi, tremblait comme une feuille. De temps à autre, Madame Sternebal poussait de grands soupirs. Nous avons eu tort de ne pas déjeuner plus solidement, dit mon futur beau-père. Je me sens un appétit féroce. Moi aussi, dit Madame Sternebal, je mangerai n'importe quoi. Je leur répondis étourdiment, je vais aller chercher des vivres. Je me repentis aussitôt d'avoir prononcé cette phrase. Je m'attendais à des protestations fougueuses, et c'est à peine si Jeanne répliqua « C'est peut-être dangereux de sortir. » Monsieur Sternebal la rassura, trop affirmatif à mon gré. « Il fait moins chaud la nuit. » Je ne la rancune contre lui. Il devait me défendre de me sacrifier. J'étais en sécurité sur ma pierre, à côté de celle que j'aimais. Nos souffrances étaient encore bénignes. Pourquoi ne pas les supporter au moins un jour ? Vous apporterez de quoi boire, dit Madame Sternebal. Cet ordre égoïste me scandalisa. Mais ma fureur fit place à l'accablement quand Jeanne ajouta : Dépêchez-vous, Roger. Plus tôt vous partirez, plus tôt vous reviendrez. Je l'embrassai rapidement dans les ténèbres. Mon baiser se perdit dans ses cheveux. Adieu, dis-je d'une voix tremblante. Une main me palpait les côtes, celle de mon futur beau-père qui cherchait la mienne pour la broyer dans une effusion. Voulez-vous que je vous accompagne ? Demanda-t-il. Madame Sternebal protesta immédiatement. Ne nous laissez pas seuls dans ce gouffre. Bien, bien, je reste, dit l'opticien sans insister. Laissez-moi dire à ce jeune ami ce qu'il faut faire. Je n'avais même plus l'initiative de la dangereuse opération. J'allais risquer bénévolement ma carcasse. Pourquoi avais-je été si bavard? Et M. Sternebal, abusant de l'autorité de l'âge, prétendait me diriger de sa place, comme les stratèges en chambre dirigent les armées. « Vous prendrez mon grand panier carré, dit-il. Avez-vous des conserves ?»« Non, ripostai-je, outré d'une si parfaite indifférence au péril que j'allais courir. »« Dommage, prenez le jambon alors. »« Et le reste du poulet de midi ?» fit Madame Sternebal. « Il y a dans le buffet la moitié d'un fromage, » rappela Jeanne. « Parfait, » dit M. Sternebal. « N'oubliez pas le pain. Nous autres, Français, nous ne savons pas manger sans pain. Dépêchez-vous, Roger. Une absence prolongée nous inquiéterait. J'avais envie de pleurer. Ces gens, qui composaient toute ma famille, ne songeaient qu'à leur estomac. Ils me sacrifiaient avec allégresse pour pouvoir satisfaire leur faim. Je ne pouvais rester qu'aux dépens de mon amour-propre. Je partis. Les adieux furent convenables. J'embrassai une seconde fois Jeanne sur l'invitation de sa mère. C'était la dernière faveur accordée aux condamnés. Mon genou me faisait très mal. Je gravis en boitant fortement la pente assez forte qui conduisait vers l'orifice. La chaleur augmentait à chaque pas. Tant mieux, pensais-je, au comble de l'indignation. Je vais tomber tout de suite, ça leur apprendra. Cela ne leur eût absolument rien appris. D'ailleurs, je ne tombais pas. Haletant, un peu suffoqué, je compris que je pouvais résister. Je m'arrêtai sur le seuil de la galerie. Ma silhouette devait se découper dans l'ouverture sur le ciel et être aperçue de M. Sternbald. J'attendais un cri, un appel pour rebrousser chemin. Je n'entendis rien. Je m'élançai donc en vomissant des imprécations. Jamais les étoiles n'avaient été si nombreuses, si étincelantes. Leurs petites lueurs dansaient dans l'espace. Des bolides traçaient de longs traits phosphorescents. Des grillons chantaient. Je n'étais guère sensible à la beauté de la nature, toutefois elle me rassurait. Je m'habituais presque à la chaleur, qui devait être d'environ 40 degrés. J'allais aussi vite que le permettait ma myopie. Avant d'atteindre la première maison, je distinguais un gros tas au milieu de la route. C'était un bœuf, déjà ballonné, les pattes raidies. Un peu plus loin, il y avait un autre corps, celui d'un homme. Mes cheveux se hérissèrent. Cette rencontre macabre m'ôta toute ma vaillance. Si je continuais, c'est que la vanité est plus puissante que la couardise. Le village était obscur, paisible, accueillant. Je m'introduisis chez moi avec une assurance factice. Si je n'avais pas trouvé les allumettes à leur place accoutumée, je me serais enfui. Tout était en ordre, et pourtant je tâtonnais. Il me fallut 5 minutes pour découvrir le panier carré de M. Sternbald. Avec une docilité parfaite, j'effourai mon jambon, la moitié d'un pain, 2 ou 3 morceaux de poulet, le fromage, le tout pêle-mêle. J'ajoutai 3 bouteilles de vin, un bout de saucisson et quelques pommes qui traînaient sur une étagère. La pendule sonna 8 heures. Le premier coup de timbre me figea. Puis cela me parut merveilleux et attendrissant que l'horloge eût tranquillement continué sa besogne, comme si la durée des jours importait plus que les événements. Je la remontai avec une sorte de piété. Et c'est à elle que j'adressai mon adieu en m'en allant. Ce fut d'ailleurs une fausse sortie, car malgré la recommandation de M. Sternbald, j'avais oublié les bougies. J'en pris 2 paquets et je me dirigeai vers la carrière. En m'approchant du mort qui gisait en travers de la route, j'éprouvai de nouveau une véritable terreur. Je détournai la tête et passai rapidement sur l'accotement. L'herbe sèche craqua sous mes pieds. Cela me rappela la chaleur excessive. Ma mission n'avait pas été en réalité très pénible. Mais en m'en remémorant les détails, je me persuadai que je venais d'accomplir un exploit extraordinaire. Il me tardait d'arriver pour raconter mon odyssée. En posant le pied sur la petite plateforme arrondie devant la carrière, j'éprouvais une joie aussi grande que celle du blaireau poursuivi qui retrouve son terrier. J'allumai une bougie et je m'engageai dans la galerie. Elle avait environ 2 mètres de hauteur et autant de largeur. Les parois étaient jaunâtres, parfaitement sèches, et le sol était constitué par une épaisse couche de poussière de pierre, appelée perruche dans le pays. J'étais fort satisfait. Je demandai à voix haute : Où êtes-vous ? Ma phrase s'éloigna en rebondissant. On me répondit : Ouh, ouh. La plus éloquente période ne m'eut pas davantage charmée. J'avais reconnu la voix de Jeanne. « Je suis intacte, continuai-je, pensant que cela les intéresserait. « Avez-vous de quoi manger ?» demanda M. Sternebal. « Oui, goinfre, dis-je avec dépit. Mais, comme je prononçais le dernier mot avec une certaine discrétion, mon futur beau-père ne l'entendit point. Ils étaient encore tous les trois assis sur la pierre. La lueur de la bougie plaquait de grandes ombres mouvantes sur leurs traits. Ils riaient. Et cela me fit penser aux morts étendus sur la route. « Voilà le panier sacré, » dit M. Sternebal. Il se mit à déballer les provisions. Je fis couler quelques gouttes de stéarine sur le sol et la bougie tint debout. « Cela s'est bien passé, » fit l'opticien. J'avais raison de rassurer ces dames. Ainsi, pendant mon absence, il avait transformé ma périlleuse aventure en promenade d'agrément. C'était dans l'intention louable de rassurer ces dames, mais cela me vexa profondément. Paris, que vous n'avez pas emporté de couteau, fit Madame Sternebal. J'eus un mouvement de dépit. Comment couper le jambon sans couteau? Je suis un étourneau, dis-je amèrement. Voulez-vous que je fasse un second voyage? Par exemple, nous allons nous en passer, voilà tout. Le pain fut rompu en 4 quignons à peu près égaux. Le partage du poulet s'avéra moins équitable. Mon lot se composa d'une partie de carcasse que je rongeais philosophiquement, tandis que Madame Sternebal déchiquetait une aile entière. « Pas d'incident notable ?» demanda M. Sternebal, la bouche pleine. Ma bonne humeur revint à cette question. Sans me presser en dilettante, je commençai mon récit. Je suis encore stupéfait des enjolivements où je me complus. À m'en croire, je n'avais progressé qu'avec des difficultés extrêmes et soutenu par le désir impérieux de découvrir des denrées alimentaires. J'avais trouvé 3 bœufs morts, un homme à demi carbonisé et un chien agonisant. J'insistais sur le chien. Quel spectacle! Le malheureux quadrupède geignait. Mais M. Sternebal se battait avec le jambon. « il résiste, dit-il. » En effet, le jambon trapu, compact, refusait formellement de se laisser entamer. Madame Sternebal recommença ses jérémiades au sujet du couteau. Je découvris alors, dans mon gousset, un canif à ongles dont la timide offensive contre la viande dure me permit d'achever mon récit. Le halo doré de notre bougie rendait autour de nous les ténèbres plus impénétrables. La lumière nous isolait au milieu de la galerie comme dans une pièce close. Nous devisions avec insouciance, car un défaut, ou une qualité, de l'homme est d'oublier son mal dès qu'il ne l'éprouve plus. Si nous évitions de faire des projets d'avenir, c'est que nous estimions que notre situation était provisoire. Nous ne pensions pas habiter longtemps ces catacombes, qui devait être singulièrement favorable au rhumatisme. Croyez-vous que toute la race humaine périra ? Me demanda M. Sternbald d'un ton léger. Et, sans attendre ma réponse, le désordre doit être sérieux dans les villes. On a dû s'égorger éperdument, car les fauteurs de troubles guettaient opiniâtrement l'occasion de chambarder la société. Je pense, au contraire, que le soleil a mis tout le monde d'accord, même les bolcheviks et les bourgeois. Plus tard, je devais apprendre ce qui s'était passé. Les tunnels du métropolitain de Paris et du Tube de Londres s'étaient emplis d'une foule tumultueuse. Les décès par étouffement et par écrasement s'étaient multipliés. Dans certains endroits, la bousculade avait été telle que les cadavres étaient restés debout entre les vivants, avançant et reculant comme ceux-ci selon les remous, avec une impassibilité lugubre. Les égouts avaient été très recherchés et les victimes y avaient été nombreuses. Les inégalités sociales avaient rapidement disparu pour faire place à d'autres. Le privilège de la force s'était imposé. Les muscles puissants et les armes automatiques conféraient une indéniable supériorité à leurs possesseurs. Il n'était pas rare de voir un savant professeur ou un homme politique influent se ranger avec respect devant un débardeur qu'ils eussent dédaigné peu de jours auparavant. M. Sternbald se lamenta sur le pillage possible de sa boutique à Bordeaux. Tandis qu'il se répandait en doléances, Mme Sternbald se mit à ronfler sans discrétion, ce qui était une façon de sonner le couvre-feu. Nous décidâmes de chercher un endroit assez confortable où passer la nuit. Je repris donc la bougie et nous nous éloignâmes en emportant le jambon. La galerie tournait brusquement à droite et se divisait en deux boyaux. Je suivis le plus large qui s'enfonçait dans les profondeurs de la colline. Quelques poutres, quelques étais me rappelaient la possibilité des éboulements. Le bruit de notre piétinement s'amplifiait dans le silence sépulcral. Nous étions accablés par toute cette ombre. Nous nous taisions. Soudain, nous nous arrêtâmes tous quatre, comme une troupe au commandement de son chef. Nous venions d'entendre quelque chose. Un cri bizarre, strident et chevrotant, déformé par l'écho et aussi par notre frayeur. Nous attendions un autre cri, mais un lourd silence était retombé. J'étais incapable de faire un pas, ni en avant, ni en arrière, et mes compagnons n'étaient pas plus rassurés que moi. De quel être mystérieux troublions-nous la retraite? Trois coups de marteau frappés sur une planche retentirent violemment. Nous nous regardâmes avec effroi, prêts à tourner casaque. Mais le cri résonna de nouveau sous la voûte et nous comprîmes cette fois que c'était le hennissement d'un cheval. 20 mètres plus loin, une porte fermait la galerie. Comme elle était maintenue par une simple cheville, je la tirai. On avait creusé dans la pierre friable une loge assez vaste. Cette loge servait d'écurie, de granges à fourrage et de dépôts d'outils. Des pics de carrier, des pelles, des scies s'entassaient dans un coin, près d'un tas de paille et de plusieurs bottes de foin qui embaumaient. Le cheval, un courtaud pommelé, était attaché à un barreau de son râtelier complètement vide. Il tendait vers nous ses naseaux frémissants et donnait des petits coups de sabot dans son bas-flanc. Il avait mangé tout ce qu'il avait pu happer de sa litière, et c'était la faim qui le faisait hennir. On ne l'avait probablement pas soigné depuis 2 ou 3 jours. Jeanne le caressa amicalement. Il posa sa grosse tête sur l'épaule de ma fiancée. « Il est aveugle, » dit-elle. Les yeux de l'animal n'étaient que deux globes laiteux. Son infirmité nous le rendit plus sympathique. Je lui jetai une copieuse ration de foin qu'il se mit incontinent à broyer de ses longues dents jaunes. « Nous l'appellerons Coco, » dit Jeanne. Une plaque de cuivre était clouée sur le bridon. Je l'eus Fourtanet-Auguste, propriétaire. Mais nous ne devions jamais connaître Fourtanet-Auguste. Monsieur Sternebald, toujours pratique, éparpillait la paille. 10 minutes après, nous dormions dans l'obscurité d'un sommeil sans rêve. Ce fut vraiment notre meilleure nuit au cours de cette période aux effroyables et épuisantes émotions.